Merci beaucoup de votre accueil et merci à vous tous d'être aussi nombreux pour un sujet de très grande actualité, puisque non seulement avec Charlie Hebdo, mais plus encore avec les massacres terroristes du mois de novembre, il y a eu tout un débat après l'accueil des réfugiés sur est-ce qu'il faut continuer à ouvrir les frontières dans un contexte de terrorisme face à la crise des réfugiés. Donc on est en pleine actualité, si j'ose dire, et je vais essayer de prendre le sujet de façon plus large d'abord pour essayer d'arriver aux questions que certains ont en ce moment à ce propos, surtout en veille de période électorale. Donc j'ai apporté quelques cartes parce que c'est toujours mieux en voyant les choses de façon concrète pour essayer de préciser un petit peu ce phénomène dans lequel on est, qui est la mondialisation des migrations. C'est un phénomène qui a commencé à partir des années 90, que je vais vous expliquer progressivement et qui est une actualité pour le monde entier et donc qui est une réalité comme le climat, comme d'autres phénomènes auxquels on est confronté. Donc, alors je signale que par ailleurs j'ai fait une exposition sur les frontières qui va durer 6 mois pour ceux qui viennent à Paris d'ici le 29 mai. Cette exposition sur les frontières est au musée de l'immigration et elle va durer, donc elle a commencé le 9 novembre et elle va tenir toujours au même endroit, Palais de la Porte Dorée, qui est un très bel endroit par ailleurs, hein, qui est un palais art déco tout près du zoo de Vincennes pour ceux qui viennent avec des enfants, qui a été construit aussi en même temps que le palais de la Porte Dorée en 1931. Il y a des expos, donc chaque année il y a une expo, et cette année il se trouve qu'elle est d'actualité puisqu'elle porte sur la question des frontières, mais quand on avait prévu cette expo, on ne pensait pas qu'il y aurait une telle actualité autour du sujet. De même qu'aujourd'hui, je n'avais pas prévu, quand avec Patrick Bartet, on a programmé notre conférence, qu'il y aurait une telle actualité du sujet. Donc, mondialisation des migrations, ce que vous voyez ici, il y a des flèches de tous les côtés, pour montrer que le monde bouge. Le monde bouge. Aujourd'hui, les gens aspirent à de plus en plus de mobilité. Qu'il s'agisse du nord au sud, du sud au nord, du nord au nord, du nord au sud. Donc aujourd'hui, malgré cette entrée en mobilité du monde qui s'est surtout manifestée après la chute du mur de Berlin, donc 1990-91, tout le bloc communiste s'ouvre, l'ex-URSS, la Chine et beaucoup d'autres régions du monde qui commencent à donner des passeports librement à leurs nationaux, parce qu'ils se sont rendus compte que quand les régimes sont autoritaires, vaut mieux laisser partir ou circuler les gens que les maintenir enfermés dans leur pays. Donc on a une sorte de démocratisation de la délivrance des passeports depuis les années 1990, et en même temps que on a donc un phénomène qui se développe beaucoup, qu'on ne voit peut-être pas d'ici, mais qui est le fait que les migrations, elles ne vont pas que du sud au nord. Celles dont on parle beaucoup, c'est celles qui vont du sud au nord, qui vont chez nous, si j'ose dire, mais aussi il y a beaucoup de gens qui vont ailleurs. Aujourd'hui, sur 240 millions de migrants internationaux, ce qui est peu, ce qui est 3,2% de la population de la planète, contre 740 millions de migrants internes. Et en parenthèse, je dis qu'en Chine, on a 240 millions de migrants internes. Donc il y a autant de migrants internes en Chine que de migrants internationaux sur l'ensemble du monde, pour vous donner une idée du phénomène. Et à côté de ça, on a 740 millions de migrants internes dont on parlera, qui sont plutôt des gens qui migrent donc dans leur propre pays pour des raisons diverses et qui ne peuvent pas toujours aller plus loin que chez eux. Donc on va surtout parler des migrants internationaux et de la question des frontières. Ces migrations aujourd'hui se divisent en deux groupes à peu près égaux, qui sont les gens qui vont vers le nord et ceux qui vont vers le sud. C'est-à-dire que sur ces 240 millions, en gros, on a 120 millions de gens qui vont du sud au nord et du nord au nord, et 120 millions de gens qui vont du sud au sud et du nord au sud. Pourquoi ? Parce que beaucoup de pays du sud sont devenus des pôles de migration. D'une part, du fait de leur richesse souvent naturelle, le Mozambique, l'Angola, mais aussi le Brésil et d'autres, les fameux pays émergents, les BRICS, et donc l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, etc., la Russie, qui n'est pas au sud, mais qui a aussi beaucoup de ressources naturelles. Donc un attrait pour de nouveaux territoires, surtout au sud. Aussi le fait que il y a beaucoup d'opportunités pour ceux qui veulent créer des emplois dans certains pays du sud. Par ailleurs, il y a des migrations nouvelles, notamment les femmes, 51% de femmes parmi les migrants internationaux qui ne vont pas très loin, donc qui vont dans le pays d'à côté, et quand ce sont des femmes du sud, elles restent au sud. Les déplacés environnementaux, dont on parle beaucoup aujourd'hui à cause des effets du climat, qui vont aussi dans le pays d'à côté ou dans leur propre pays. Donc tous ces phénomènes facilitent, si j'ose dire, une migration vers le sud. Et puis le fait que les pays du Golfe soient la troisième région migratoire au monde, après l'Europe et les États-Unis. Donc tout ça fait qu'on a une sorte de redéploiement des migrations dans d'autres régions que là où habituellement les migrants allaient, c'est-à-dire l'Europe, les États-Unis, le Canada. Aujourd'hui, le monde entier est concerné par les migrations. Le monde entier, et on voit d'ailleurs sur cette carte que certains pays sont des pays de départ, d'autres d'accueil, d'autres de transit, mais de plus en plus, les pays sont les deux ou les trois à la fois. Et ça, c'est un phénomène également récent. Ces migrations mondialisées, elles sont aussi régionalisées. C'est-à-dire que si on regarde tout ce que j'ai entouré dans des cercles gris et quelques autres d'ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a plus de migrants dans tous ces cercles qui viennent de la même région que là où ils migrent, que de gens qui viennent d'ailleurs. Par exemple, si vous prenez aujourd'hui l'Amérique du Sud, l'essentiel des migrants viennent d'Amérique du Sud. Ils viennent des pays andins vers le Brésil, l'Argentine, le Chili, etc. Même aux États-Unis, première destination migratoire au monde, mais en termes de pays, mais en termes de région, deuxième derrière l'Europe, les États-Unis ont la moitié de leurs migrants qui viennent d'Amérique latine et d'autres qui viennent du Canada, etc. Donc la majorité des migrants aujourd'hui aux États-Unis, malgré la mondialisation de l'économie américaine, est affectée aussi par la régionalisation des flux. Si vous prenez la Russie, l'essentiel des migrants en Russie sont des gens qui viennent de l'ancienne URSS, c'est-à-dire Sud-Caucase, Asie centrale. Si vous prenez l'Afrique, un migrant africain sur deux va en Afrique, et notamment au Maghreb ou en Afrique du Sud, ou alors s'il quitte l'Afrique vers le Golfe ou vers l'Europe. Ensuite, on a l'Asie du Sud-Est, qui est une région très peuplée, et où l'essentiel des migrants d'Asie du Sud-Est viennent d'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire des pays comme l'Indonésie, comme le Pakistan, comme les Philippines, vers ou la Chine, vers le Japon, vers Hong Kong, vers Singapour, vers la Corée du Sud, etc. Donc ce phénomène s'est beaucoup régionalisé depuis ces dernières années, à tel point que beaucoup de ces régions ont construit des espaces de libre circulation pour permettre la circulation plus libre, sans visa, de la main-d'œuvre, et pour faciliter le commerce et les activités économiques. Donc on a 22 espaces de libre circulation à l'échelle mondiale. Le plus connu, c'est l'Europe pour les Européens. Pour les autres, c'est une autre affaire, c'est le cœur de notre débat. Mais on a aussi le marché nordique du travail dans l'Europe du Nord, et on a la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, 15 pays en Afrique. On a d'autres, on a 5 pays autour du Cameroun aussi. On en a les pays autour de l'Afrique du Sud, un autre espace économique régional. On a l'UNASUR pour l'Amérique latine, on a l'ASEAN pour l'Asie du Sud-Est, et puis on a un espace suppression des visas de court séjour pour la Russie ainsi que pour la Turquie. Donc de plus en plus, il y a eu une prise en compte de cette mobilité régionale par les grands espaces régionaux mondiaux. Autre caractéristique, les inégalités du développement humain. Là, j'ai simplement cartographié les 3 critères qui sont proposés, qui ont été proposés par le prix Nobel d'économie Amartya Sen pour quantifier les inégalités, en prenant trois indices qui sont l'espérance de vie à la naissance, le niveau de scolarisation et le niveau de vie en part du produit intérieur brut du pays. Et si on croise ces trois critères, on a cette carte qui montre l'Afrique subsaharienne particulièrement comme région d'inégalité du développement humain par rapport au reste du monde. C'est là qu'il y a les pays les plus mal classés, si j'ose dire, en termes d'IDH, d'inégalité du développement humain. Et en même temps, les gens étant rationnels, c'est un continent en pleine mobilité. En un siècle, le continent africain, entre 1950 et 2050, sera passé de 70% de ruraux à 70% d'urbains. Et la vie urbaine, c'est aussi plus d'informations, plus de scolarisation, plus de considération que parmi les options possibles, il y a la migration. Autre caractéristique, la dimension démographique. Pour que les migrants bougent, il faut qu'il y ait souvent qu'ils perçoivent des pénuries de main-d'œuvre quelque part et qu'eux-mêmes soient en forme pour pouvoir partir. Et aujourd'hui, la situation est particulièrement propice pour favoriser ces phénomènes de rencontre d'une offre et d'une demande de main-d'œuvre, même si l'essentiel de la migration, j'y reviendrai, c'est pas pour travailler, c'est regroupement familial, asile, étudiants, etc. Donc on voit le décrochement, si j'ose dire, en termes de vieillissement de la population de l'Union européenne, de l'Europe orientale et de la Russie et de certains pays d'Asie de l'Est comme le Japon, par rapport à des pays qui sont dans une situation intermédiaire, notamment ceux qui sont en jaune foncé, qui sont en transition démographique. Contrairement à une idée largement répandue, l'islamisation politique de certains pays, puisque certains de ces pays en jaune foncé sont des pays d'islam, n'a eu aucun effet sur la chute de la natalité. Donc ça, c'est un élément intéressant à prendre en compte. Et tous ces pays sont en transition démographique. Ça veut dire que en une génération, ils sont passés de 6-7 enfants par femme à 2,5 enfants par femme. Donc le paysage migratoire de demain dans toutes ces régions, et ça intéresse particulièrement l'Europe parce que c'est la rive sud de la Méditerranée ou l'Est, sont des pays qui auront moins de jeunes, si j'ose dire, disponibles pour la migration. Aujourd'hui, ils sont très disponibles parce qu'ils sont nombreux comme classe d'âge et ils sont nombreux pour s'occuper de leurs parents. Donc, il y a une grande disponibilité et ils ont peu d'enfants. Donc, ils sont très disponibles, si j'ose dire. Ce sera pas le cas pour la génération suivante, quand il n'y aura que deux enfants pour s'occuper des parents dans des pays où il n'y a pas beaucoup de prise en charge du troisième et du quatrième âge. Et donc, on aura d'autres configurations pour le pourtour méditerranéen. En revanche, en Afrique subsaharienne, on a encore une très forte croissance démographique. Les démographes prévoient autour de 2 milliards d'Africains à la fin de ce 21e siècle, et avec un âge médian, c'est-à-dire l'âge qui sépare en deux parties égales la population. En Europe, c'est de 40 ans. Donc, si vous avez plus de 40 ans, vous êtes d'un côté. Si vous avez moins de 40 ans, vous êtes de l'autre. Et l'équilibre se met à 40 ans. Dans les années 50, c'était de 28 ans en Europe. Sur la rive sud de la Méditerranée, c'est 25 ans. Donc, 50% de la population a moins de 25 ans ou a plus de 25 ans. En Afrique subsaharienne, c'est 19 ans. Donc, on voit la différence de jeunesse entre l'Afrique subsaharienne et nous, par exemple. Autre élément aussi, la fracture entre les riches et les pauvres. Pour caricaturer, je dirais qu'on a d'un côté un monde riche et vieillissant, et de l'autre un monde jeune et plutôt pauvre. Et avec des lignes de fracture qui sont très fortes, comme la Méditerranée, c'est là où il y a les plus grandes lignes de fracture du monde, économique, sociale, également en termes de politique publique, etc. Les gens voient de l'autre côté, ils regardent la télévision, ils ont Internet quand ils ont l'électricité, ils sont sur des téléphones portables et ils considèrent que précisément la migration est une possibilité si on considère que chez soi il n'y a pas d'espoir. Autre ligne de fracture, la frontière entre l'Amérique centrale et le Mexique ou entre le Mexique et les États-Unis. Là aussi il y a beaucoup de passages. La frontière construite en 2006 par le président Bush, c'est la plus contrôlée, mais en même temps c'est la plus traversée du monde, hein, avec toute une série de trafics autour, comme en Méditerranée d'ailleurs. Et puis la frontière entre l'Europe des 28 et les autres européens pas encore entrés dans l'Union européenne, ou la Turquie et l'Europe aussi, le passage par la Grèce est un des sujets d'actualité. Et puis entre les pays riches d'Asie du Sud et les pays plutôt d'émigration. Comme je vous disais, Chine, 50 millions de Chinois à l'étranger, Inde, 30 millions d'Indiens à l'étranger, les Philippines, un Philippin sur 10 vit à l'étranger, sans parler du Pakistan, sans parler du Bangladesh et de quelques autres pays de départ. Le résultat actuel, puisque depuis cette généralisation du droit de sortie auquel on a assisté depuis les années 90, ça a été plutôt la fermeture des frontières, le système des visas. Et c'est une des plus grandes inégalités au monde aujourd'hui, l'inégalité du droit de bouger. Parce que selon votre passeport, bah, vous avez ou pas la possibilité d'aller dans tel pays avec ou sans visa. Et il y a une classification mondiale qui a été faite de ce droit de migrer. Ceux qui ont le plus de possibilités, ce sont les Anglais et les Danois. Ils peuvent aller dans le plus de pays dans le monde sans visa, dans 164 pays. Si vous êtes russe, vous pouvez aller dans 94 pays. Si vous êtes africain subsaharien, vous pouvez aller peut-être dans 3 ou 4 pays. Donc ça explique que, compte tenu d'une demande croissante de mobilité, ben, le développement du trafic. Quand on interdit, c'est comme la prohibition de l'alcool dans les États-Unis des années 30. Le droit d'entrée est devenu de plus en plus difficile, alors que le droit de sortie s'est généralisé. Eh bien, il y a l'économie du passage et des quantités de morts aux frontières. Faut pas l'oublier. L'Europe, continent des droits de l'homme, en principe, a eu 30 000 morts à ses frontières depuis 2000 jusqu'à 2015. On a eu 33 000 morts en Méditerranée depuis le 1er janvier 2015. Et puis, il n'y a pas que la frontière méditerranéenne, il y a les frontières terrestres. Tout à l'heure, on le verra. Là aussi, on a beaucoup de passages et beaucoup de trafic et toute une série de situations complètement, étonnantes aux portes d'un continent qui se considère comme développé. Ensuite, on a les réfugiés, autre cause de départ, et on a eu toute une... Alors, la carte n'est plus du tout d'actualité, parce que je suis en train de refaire l'Atlas, mais elle explique un peu les choses. Elle explique surtout que le Sud accueille beaucoup, contrairement à une idée répandue, puisqu'en vert, c'est les points d'accueil. Hein. Parmi les pays qui ont le plus accueilli depuis ces 25 dernières années, il y a eu l'Iran et le Pakistan. Donc les pays qui sont pas les plus riches du monde, loin de là, hein, parce qu'ils ont accueilli une grande partie des Afghans et ils ont accueilli aussi une grande partie des Iraniens, et les Iraniens ont accueilli les Afghans, mais le Pakistan a accueilli beaucoup d'Afghans aussi, et en Iran a été accueilli beaucoup d'Irakiens. Donc on a eu toute une série de crises où successivement les pays produisent mais accueillent des réfugiés. On le voit encore aujourd'hui, pays voisins, la Syrie avait accueilli beaucoup dans le passé. Aujourd'hui, il y a 4 millions de Syriens qui ont quitté leur pays et qui sont surtout accueillis en Turquie. On a 2,2 millions de Syriens en Turquie, qui sont accueillis aussi 1 million au Liban, 600 000 en Jordanie. Le Liban, c'est le quart de la population quand même, les réfugiés syriens. Donc c'est très important. D'autres situations de crise, le Darfour au Soudan, où les gens étaient accueillis dans le Tchad voisin, par exemple, ce qu'on voit un peu sur la carte, et d'autres crises qui ont produit beaucoup de réfugiés. Pour l'Europe, qui a aussi accueilli, notamment l'Allemagne, on a eu les réfugiés de l'ex-Yougoslavie, on a eu les réfugiés de la crise algérienne de 95, on a eu différentes vagues de réfugiés de la crise des Grands Lacs aussi en Afrique, par exemple. Donc, il n'y a pas que les facteurs économiques de départ, il y a des facteurs politiques. Aujourd'hui, le seuil des 6 millions a été atteint, si j'ose dire, en termes de réfugiés. 6 millions de Palestiniens, 6 millions d'Afghans qui ont quitté leur pays et environ 6 millions de Syriens qui sont partis de chez eux. Pas tous à l'étranger, une partie sont restés en Syrie. Donc on est dans des périodes de crise intense avec des départs massifs qui entourent l'Europe. Parce que parmi les premières nationalités aujourd'hui des demandeurs d'asile en Europe, on a bien sûr les Syriens, on a les Irakiens, on a la Corne de l'Afrique et on a le Kosovo. Alors les crises, donc facteurs de conflit. Et puis la mode de la mobilité. Le tourisme international est en pleine vogue et aujourd'hui on est dans cette contradiction où on considère que la mobilité c'est le nec plus ultra de la modernité. Tous les jours on est sollicité par sur internet par une agence de voyage qui vous vend les mérites de tel ou tel endroit exotique. Et en même temps, pour les deux tiers de la population du monde, il est impossible de sortir de chez soi. Donc là, il y a une contradiction énorme, qui est aussi une contradiction pas seulement culturelle, mais économique. Le rapport du PNUD de 2009, du Programme des Nations Unies pour le Développement, disait que la mobilité est un facteur essentiel du développement humain. Le développement humain, c'est l'IDH que je vous ai présenté tout à l'heure. La mobilité est un facteur essentiel. En même temps, les deux tiers de la population mondiale ne peuvent pas circuler librement. Donc là, on a une contradiction très forte à ce niveau-là. Et puis, entre ceux du Nord qui peuvent circuler et qui sont incités à consommer du tourisme, et puis ceux du Sud à qui on interdit de bouger de chez soi. Et la contradiction, on la trouve en Méditerranée, notamment dans les îles qui vivent du tourisme. Si vous allez à Malte, si vous allez à Lampedusa, si vous allez dans les îles grecques proches de la Turquie, vous allez ou en Crète ou surtout à Chypre, vous allez avoir l'accueil des touristes d'un côté à bras ouverts. Puis de l'autre côté, un peu discrètement, on accueille plus ou moins les sans-papiers qui ont accosté la nuit précédente. Donc là, on est dans la contradiction du monde, si j'ose dire. Hein. C'est une sorte de concentré de la situation mondiale à laquelle sont confrontées les îles de la Méditerranée. Et ça a été le cas aussi des Canaries. C'est le cas de beaucoup d'endroits d'arrivée, de passage en Méditerranée. Aujourd'hui, on a 1 milliard de touristes internationaux. Et on n'est compté qu'une fois. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a des fins de loisirs pendant une fois dans l'année au moins a quitté son pays pour aller dans un autre pour une durée inférieure à 3 mois, puisqu'après on n'est plus dans le régime du tourisme. Donc rien qu'avec ça, on a 1 milliard de touristes internationaux. Et ce tourisme produit aussi de la mobilité d'installation, de la migration. Aujourd'hui, les seniors au soleil sont une des migrations nord-sud dont j'ai parlé tout à l'heure, qui alimente aussi la migration vers le sud. Les Français aiment bien le Maghreb, d'autres préférant Malte, comme les Anglais, etc., en fonction des langues qu'ils parlent, mais c'est un phénomène très tendance aujourd'hui dans les formes de vie, de pas seulement y aller pour le tourisme, mais de s'installer au sud. Autre élément, je vais vous faire l'économie le vieillissement. Le vieillissement, c'est un facteur de migration. Pourquoi c'est un facteur de migration? Parce que ça crée des nouveaux besoins de main-d'œuvre. Des besoins qu'on n'avait pas prévus pendant très longtemps, les métiers du care, comme on dit, qui consistent à soigner les personnes âgées. Si vous allez en Italie ou en Espagne, ou en Grèce, qui sont des pays très frappés par le vieillissement de la population, parce que en une génération, il y a eu une transition démographique très brutale. Autrefois, c'était les femmes qui s'occupaient des gens âgés, qui maintenant travaillent. Il n'y a pas beaucoup d'infrastructures pour les gens âgés. La plupart des gens qui gardent ces personnes âgées sont des étrangères. Donc, ça a créé un appel de main-d'œuvre en une génération très important, de la part de gens qui avaient pas nécessairement les moyens pour avoir un mode de garde très coûteux dans une infrastructure spécialisée, mais qui avaient les moyens de payer au noir, parce que beaucoup étaient des salariés, avec leur retraite, payer au noir quelqu'un qui reste à domicile, ce qui est le cas. Donc on a eu depuis les années essentiellement 90 un afflux de polonaises, de roumaines, d'ukrainiennes, de latino-américaines, également de philippines qui s'occupent des gens âgés dans ces pays. C'est une migration surtout féminine et qui se développe au fur et à mesure de l'accroissement de l'espérance de vie. Je souligne que moi je travaille avec un département de démographie de l'Université de Rome. Les pays du sud de l'Europe sont les pays où l'espérance de vie en Europe est la plus élevée. Donc c'est un sujet qui n'est pas seulement conjoncturel, qui est structurel et qui crée des besoins de main-d'œuvre. Beaucoup de ces femmes se sont fait régulariser, y compris dans les périodes de politique anti-immigration, comme celle de Monsieur Berlusconi, par exemple, parce que les électeurs souhaitent garder ces personnes. Et donc on a régularisé massivement par paquet de 800 000 personnes. En France, quand on régularise 150 000, on considère que c'est un exploit. On ne l'a fait qu'une fois en 1982. Là, ça a été par paquets successifs de 800 000, 1 million de personnes en Italie, en Espagne. Et en Espagne, il y a aussi les métiers du tourisme qui sont très avides de main-d'œuvre de cette nature. Et donc, on a ces métiers du care, ces métiers aussi du vieillissement qui sont pas seulement les gens âgés qui veulent être gardés ou dont les parents veulent les faire garder, mais il y a aussi des métiers pénibles, le bâtiment, l'agriculture, les métiers du tourisme, les métiers des services, etc. Dans des pays où il y a un tourisme important, ben, il y a une demande forte. Et donc, ça a créé un appel de main-d'œuvre pour ces pays vis-à-vis de gens qui cherchent des niches d'emploi pour leurs arrivées, surtout irrégulières, en Europe. Autre élément donc de cette situation, bah, les morts aux frontières. Tout le monde n'arrive pas au pays d'accueil et donc on a eu des quantités de points de passage qui se sont d'ailleurs développés et qui ont évolué au fur et à mesure des points de contrôle de Frontex et des diverses opérations maritimes qui ont été mises en œuvre. Tout d'abord, on a eu Gibraltar et puis ensuite on a eu un système qui a été décidé en 2002, le système intégré de vigilance externe autour de Gibraltar. Donc les gens ne tentent plus Gibraltar, mais ils tentent d'autres points d'arrivée en Espagne, puisqu'il y en a qui attendent au Maroc, dans des endroits qu'ils ont occupés, dans les forêts qui sont proches de l'enclave espagnole de Ceuta et Melilla. Il y a un mur de 4 mètres de haut qui a été érigé par l'Union européenne, mais les Africains qui arrivent là sont très désireux. De temps en temps, ils font l'assaut de ce mur de grillage, et donc il y a des arrivées ainsi dans l'enclave espagnole. Et aussi, ensuite, on mène les gens jusqu'en Espagne. On a eu également les îles Canaries, qui étaient un départ très périlleux à partir du Sénégal. Maintenant, on part moins du Sénégal, parce qu'il y a eu toute une politique de dissuasion compte tenu du nombre de naufrages qui a été mené par le Sénégal. Mais il y a d'autres points de départ qui sont un peu plus au nord, vers les Canaries. Et puis aussi le sud du Maroc, par exemple, comme point de départ. Et puis on a aussi les îles de la Méditerranée, les îles États comme Malte, comme Chypre, et puis particulièrement Lampedusa. Pourquoi Lampedusa ? Parce que c'est l'île qui est la plus proche des côtes africaines, une île sicilienne qui est d'ailleurs plus proche de la Tunisie que de l'Italie, que de la Sicile. Et donc l'île de Lampedusa a été et continue à être très prisée par les passeurs pour son accueil, si j'ose dire, des sans-papiers. Il y a un centre d'accueil, il y a eu beaucoup de morts, etc. En même temps, il y a une situation un peu curieuse, puisque d'un côté, elle vit du tourisme et de la pêche, et de l'autre côté, il faut qu'elle accueille, selon les lois de la mer, les sans-papiers. Certains ont été condamnés par les tribunaux pour avoir aidé au voyage clandestin, etc. Et puis on a bien sûr Malte, pareil, même topo si j'ose dire, des pays de tourisme qui doivent accueillir des sans-papiers avec des centres d'accueil, etc. C'est pas toujours très facile, ni pour les uns ni pour les autres. Les îles grecques, qui ont été le point de passage cardinal des migrations du Proche-Orient. Aujourd'hui, selon le dernier rapport du Haut Commissariat aux Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, juin 2015, l'essentiel des passages se fait par la Turquie et la Grèce. Pourquoi ? Parce qu'ils arrivent de là et donc ils essayent de pénétrer en Europe par la Grèce. Donc la Grèce est quand même un pays qui économiquement est dans une situation difficile et qui voit arriver tous ces gens. Notamment les îles qui aussi vivent du tourisme et qui doivent accueillir les gens qui sont arrivés de la nuit. Une des îles les plus au nord de la Grèce, l'île de Lesbos, où il y a comme capitale, si j'ose dire, Mytilène, donc une, eh bien, a été une des îles les plus investies par les arrivants pendant l'été dernier. Des milliers de personnes sont arrivées par là. Toutes les îles du Dodécanèse, Samos, Kos, etc. Et puis, des opérations coup de poing, si j'ose dire, qui ont été mises en œuvre. Frontex, à partir de 2004, qui contrôle les frontières extérieures de l'Union européenne avec beaucoup de morts. Donc, l'Italie a réagi en disant on ne peut plus supporter que Frontex dise que sa mission, une fois qu'il y a eu en une nuit 366 morts en Méditerranée en septembre 2013, l'Italie a dit on va mener nous-mêmes une opération de sauvetage et on va monter Mare Nostrum. Mare Nostrum, c'est une opération italienne faite par la marine, par l'aviation, de sauvetage en mer. Et en un an, Mare Nostrum a fait beaucoup mieux que Frontex en termes de sauvetage, puisque sa mission, c'était pas de faire du contrôle, c'était de faire essentiellement du sauvetage en mer. Et puis d'autres endroits, le fait que la Libye soit dans une crise politique majeure fait que c'est un point de passage et de passeurs très important. Parce que la Libye avait monnayé sa situation géographique avec l'Italie et la France contre, enfin, de filtrage des arrivants, contre des cadeaux, si j'ose dire, à monsieur Kadhafi, une autoroute entre l'Égypte et la Tunisie, qui n'a jamais eu lieu puisqu'il y a eu la révolution de 2011, mais aussi des cadeaux, bien sûr, au président qu'on a reçu fort bien dans ces deux pays, qui étaient redevenus fréquentables, si j'ose dire, à cause de cela. Et comme la crise libyenne se poursuit, c'est le lieu de tous les passages, de tous les trafics, etc. D'autres pays sont des points de départ. La Turquie, on l'a vu avec le point de la mort du petit Aylan, le petit Syrien de 3 ans mort sur la plage, qui a ému une partie de l'opinion publique mondiale, qui est mort échoué sur les côtes de Bodrum dans la tentative de sa famille de fuir vers la Turquie puis vers l'Europe. Il y en a beaucoup comme ça. Et également l'Égypte. Et donc on a des opérations économiques très juteuses, si j'ose dire, de voyages clandestins en Méditerranée, des gens qui achètent des vieux cargos à la casse pour les remplir de 500, 700 personnes, ce qu'on a vu l'hiver dernier. Les donneurs d'ordre ou ceux qui conduisent ces bateaux disparaissent dans des barques pendant une nuit, ils laissent le bateau en pleine mer, et ensuite on se dit il va s'échouer sur les côtes italiennes, il y aura 50 morts, mais les autres vont arriver, et voilà comment ça se passe. Donc on a ça, puis on a des gamins, si j'ose dire, sur la rive sud qui sont des grilleurs de frontières, comme on dit, les haragas en Algérie, qui décident entre copains d'acheter un Zodiac ou de payer un de leurs copains qui est propriétaire d'un bateau pour tenter l'aventure en Méditerranée, en considérant que chez eux, il n'y a pas d'espoir. Donc, ils ne fuient pas la guerre, mais ils fuient une situation où ils considèrent qu'ils sont déjà morts. Si on leur dit « vous allez mourir en Méditerranée », ils disent « ici, on est déjà morts ». Donc, en fait, il y a un exode colossal de jeunes du Sud, subsahariens, mais aussi du Maghreb, dans l'Odyssée, que représente la traversée de la Méditerranée par des moyens divers. Alors, d'autres points de passage, je parlais de la fameuse route des Balkans. Outre la Méditerranée, il y a la route des Balkans. La route des Balkans, ça consiste à passer dans un endroit que vous connaissez peut-être pas parce que c'est pas très touristique, où je suis allée une fois. C'est à côté d'une ville qui est patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est Edirne. Edirne, ça a été une capitale de la Turquie. En terrain européen, puisque là on est en Thrace, c'est la partie européenne de la Turquie, dans cet endroit qui est des champs d'oliviers en réalité des deux côtés, en Grèce il y a une population qui est turque, contrairement au reste de la Grèce, puisqu'il y a eu un échange de population entre la Grèce et la Turquie avec l'arrivée de Mustafa Kemal au pouvoir par le traité de Lausanne en 1923. Donc les Turcs de Grèce sont partis en Turquie, les Grecs et les Grecs de Turquie sont partis en Grèce, sauf pour la Thrace, parce que c'était un endroit qui n'intéressait, où il n'y avait pas beaucoup de gens, c'est rural, etc., population dispersée, puis c'était ces gens qui faisaient vivre cet endroit en cultivant des oliviers et de la vigne. Donc on les a laissés sur place. Et ils sont turcs. Moi, je suis allée dans cette région, c'est très intéressant, avec un géographe. Et ils sont turcs, ils sont enseignés en turc, ils pratiquent la religion musulmane, ils ont leur mosquée, leur lieu de culte, etc. Et ils sont grecs de nationalité. Et en fait, on parle dans le coin le grec et le turc. Et donc, ils sont très proches des autres turcs de l'autre côté, qui sont aussi des gens de la Thrace, donc de la Turquie d'Europe, donc ils se connaissent et il y a beaucoup de trafic de passage. Les gens sont pauvres, ils savent très bien comment aider à faire passer la frontière, où il y a quelques barbelés sur là où les routes, il y en a très peu qui passent en Turquie, à cet endroit-là. Et puis il y a la rivière Evros qui est traversée en permanence, et donc il y a beaucoup de passages par cet endroit, qui est très prisé parce qu'il y a moins de risques, il n'y a pas de risque de naufrage, sauf si on se noie dans la rivière, et d'autre part parce qu'ils sont vaguement accueillis en Grèce par des gens très proches de ceux qu'ils ont rencontrés en Turquie. Et puis surtout par la Grèce du Nord, on peut passer en Macédoine, et puis de là on passe éventuellement dans d'autres. D'abord ils ont tenté également la Serbie, mais comme avec la Hongrie il y avait une fermeture de la frontière, notamment pendant l'été, les barbelés, ils tentent d'autres destinations à travers les pays de l'ex-Yougoslavie pour pénétrer en Italie, en Allemagne, en Autriche, etc. Et donc c'est le lieu de passage le plus prisé aujourd'hui. On a beaucoup de photos de ces Syriens en famille, c'est une sorte d'exode, si j'ose dire, hein, comme dans les années 40, qui traversent tous ces territoires à pied pour essayer de pénétrer en Europe, de trouver la paix et de s'insérer sur le marché du travail. Donc c'est tout à fait d'actualité. Ça c'est les pays soumis à visa, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je voudrais juste insister sur deux, trois choses concernant l'Europe. L'Allemagne, qui est de très loin le premier pays d'immigration. On a 7 millions d'étrangers en Allemagne, plus l'accueil des réfugiés. Madame Merkel, dans son discours septembre 2015, a dit que l'Allemagne était prête à accueillir 800 000 demandeurs d'asile. Les pays européens qui avaient d'abord refusé les fameux quotas de Monsieur Juncker, président de la Commission européenne, pour certains se sont rangés comme la France derrière cette décision. On a dit qu'on allait accueillir 30 000 demandeurs d'asile en plus des 60 000 qu'on a environ chaque année depuis 4-5 ans, puisqu'il y a 4 pays en tête pour l'accueil des réfugiés en Europe qui sont l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et la Suède. Et on a l'impression qu'accueillir 30 000 personnes, c'est-à-dire un par commune, en gros même pas en France, on a 36 000 communes, c'est un effort considérable. Donc c'est juste une parenthèse, mais l'Allemagne a une longue tradition d'accueil des demandeurs d'asile. Après la chute du mur de Berlin, elle a accueilli 438 000 demandeurs d'asile dans l'année 92 sur 500 000 demandeurs d'asile en Europe. Elle a accueilli l'essentiel des gens de la crise yougoslave, par exemple. Donc, de très loin, tout d'abord, en première ligne, l'Allemagne, et derrière, d'autres pays européens. Là, je voudrais juste vous illustrer le phénomène des fameux seniors au soleil, relatif, mais quand même, c'est une migration nord-nord, mais qui donne une idée de la migration aussi nord-sud, c'est les Anglais qui s'installent chez nous. Aujourd'hui, c'est un phénomène très développé dans le sud-ouest de la France, qui suivent d'ailleurs des chemins historiques de la prépondérance britannique dans certaines régions de France et qui ont gouverné la Normandie, la Bretagne, l'Aquitaine, etc. Ils restent fidèles à leurs points d'implantation initiaux. Mais on a aussi beaucoup d'autres phénomènes du même genre. Si on regarde, alors d'une part, on a les phénomènes de mobilité interne. Les Européens étaient très faiblement migrants en Europe jusqu'en 2004, jusqu'à l'arrivée des nouveaux pays, des 10 nouveaux pays. Et aujourd'hui, comme vous voyez, la Pologne, c'est le premier pays d'immigration au Royaume-Uni, le deuxième en Irlande. Les Roumains sont les premiers, première nationalité en Espagne, première nationalité en Italie. Les Albanais sont la deuxième nationalité en Italie, la première en Grèce. Donc on a eu beaucoup de mobilité qui a été lié à la chute du mur, comme je vous disais. Et notamment, aujourd'hui, en Europe, 40% des migrants sont des Européens, surtout de l'Est, mais pas seulement, du sud de l'Europe, qui vont vers le nord quand ils sont qualifiés pour chercher du travail. Donc, très grande mobilité, mais aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, les fameux seniors au soleil, on les trouve aussi dans le sud de l'Europe. Les Anglais sont la quatrième nationalité en Espagne. Ils sont donc également présents, donc les Allemands, vous les voyez en septième nationalité en Espagne, ça doit être une des dixièmes nationalités au Portugal, les Anglais étant la sept ou huitième. Donc on a un phénomène comme ça qui s'est beaucoup développé. On a beaucoup de Russes en Grèce et quelques autres du bloc de l'Est qui se sont installés depuis les années 90-91. Donc une mobilité accrue de figures de migrants qu'on ne connaissait pas, et notamment ces migrations nord-sud dont je vous parlais. Et puis on a les Roms aussi, qui sont au cœur de notre interrogation sur l'ouverture des frontières, qui sont des gens qui souvent sont redevenus mobiles après la chute du mur de Berlin, parce qu'ils ont perdu beaucoup de leurs prestations sociales et parce qu'ils ont compris qu'il y avait des opportunités à faire en migrant à l'ouest. Et donc ce sont beaucoup des gens qui vivent ici, là-bas, hein, ici, là-bas, comme d'ailleurs beaucoup d'autres migrants, comme les migrants qui ont des titres de séjour de longue durée, comme également les fameux seniors au soleil, qui souvent ne vivent qu'une partie de l'année précisément au soleil, etc. Aujourd'hui, une grande aspiration mondiale, c'est de vivre sur deux espaces, de s'installer dans la mobilité comme mode de vie pour profiter des opportunités différentes qu'il y a ici, là-bas. Et beaucoup de migrants qui s'installent chez nous s'installent parce qu'ils peuvent pas faire autrement quand ils sont en situation irrégulière, mais aspirent à être sur deux espaces, qui est d'ailleurs un facteur de développement humain dans leur pays d'origine. Et en fermant les frontières, on favorise la sédentarisation aléatoire de gens à statut précaire qui attendent une solution à leur régularisation ou à leur reconnaissance comme demandeurs d'asile, réfugiés. Et puis, au contraire, si on les ouvre plus, on a vu qu'on favorisait la mobilité, qui est une grande aspiration de ce siècle. Ensuite, je ne vais pas revenir là-dessus, mais juste pour montrer que le phénomène n'est pas seulement européen. L'Europe n'est pas au cœur du monde, comme on a tendance à le croire. Ces phénomènes de migration par-delà les frontières, c'est aussi le cas dans une sorte d'opposition géopolitique en population contre les territoires. C'est la Russie et la Chine. Aujourd'hui, la Russie est un pays vieillissant qui a énormément de ressources, notamment naturelles, et donc les Chinois explorent ce qui se passe de l'autre côté, font du commerce, etc. Et il y a des endroits où la frontière est ouverte pour exploiter le bois, parce que les Russes ne peuvent pas tout exploiter en Sibérie. Donc là, on a des migrations de plus en plus. Alors la Russie, qui pendant longtemps, qui avait un passeport intérieur jusqu'en 1994, qui s'appelait la propiska, qu'on pouvait pas librement dire qu'on allait s'installer dans une autre partie du pays, ce qui existe encore en Chine. On a le fameux passeport intérieur, le Wukou, qui contrôle 240 millions de migrants internes en Chine, et où il y a 100 millions de sans-papiers en Chine, qui sont des nationaux. En Turquie, ça existait aussi, mais il y a longtemps. Mais en Russie, on l'a supprimé en 94, et donc ils ont non seulement supprimé ce système, mais ils ont supprimé les visas avec l'essentiel de, sauf la Géorgie, avec l'essentiel de leurs anciens pays de l'URSS, et donc pour fournir de la main d'œuvre. Donc toute la partie Asie centrale, Sud-Caucase, est en situation de migration et de mobilité en permanence avec la Russie. Donc là, c'était les points de passage actuels. Et parfois, c'est des voyages au très long cours, hein, quand on a des difficultés à trouver. Ça dépend aussi des passeurs, ça dépend surtout des contrôles, ça dépend la façon dont les choses se sont organisées. Mais on voit que parfois, il y a des Africains subsahariens qui font de très longs voyages en passant par la Turquie pour entrer jusqu'en Europe par la voie de la Grèce, comme je vous l'ai montré. Et puis bien sûr des gens qui viennent à pied d'Afghanistan, etc. Donc il y a de très très longs voyages. Donc ça, c'est la mobilité intérieure de l'Afrique, hein. C'est un continent très mobile, pas seulement depuis hier, mais depuis avant-avant-hier. Il y a une grande tradition de mobilité qui a été liée à l'histoire coloniale, mais qui a été liée aussi à une tradition d'aller vers là où il y a des ressources, dans des populations, des pays très peuplés qui ont peu de ressources, des pays qui ont beaucoup de ressources, mais qui sont peu peuplés, etc. Et donc, ça a créé des traditions parfois ancestrales de mobilité. Là, c'est les guerres et les conflits qui sont les facteurs de mobilité essentiels, comme vous pouvez le voir. Et puis, les minorités aussi. La Turquie, qui est un pays central aujourd'hui, l'Europe vient de conclure un accord pour demander aux Turcs de garder les Syriens en Turquie, en l'aidant financièrement. La Turquie, qui est le plus grand pays de départ vers l'Europe, on a 4,4 millions de Turcs en Europe, mais aujourd'hui qui a un solde migratoire négatif, c'est-à-dire qu'il y a moins de Turcs qui partent que de Turcs qui reviennent. Donc la Turquie, dans ses négociations, voudrait l'abolition des visas avec l'Union européenne, et plus de visas entrées multiples en attendant, plus de facilités pour plus de catégories de gens, ce que réclament aussi Accor et Acri les pays du Maghreb. Donc la Turquie, qui est un immense pays d'arrivée des crises du Proche-Orient, et qui est un pays de transit très important, avec des lieux d'accueil, des hotspots précisément, que l'Union européenne s'est proposé de financer si la Turquie arrive à maintenir ses gens en Turquie. La difficulté, c'est que la Turquie n'a pas, qui est signataire de la Convention de Genève sur l'asile, a une réserve géographique, comme du temps de la guerre froide, qu'elle a conservée, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas de demandeurs d'asile non européens. Et donc aujourd'hui, l'essentiel des demandeurs d'asile, ils viennent pas de l'Union soviétique qui a disparu, mais ils viennent de pays non européens. Donc les grandes régions comme la Turquie, où il y a beaucoup de production de réfugiés, sont des régions où on n'applique quasiment pas la Convention de Genève. Alors le Haut Commissariat aux réfugiés, qui est sur place en Turquie, délivre des statuts de réfugiés, mais le régime turc lui-même a gardé sa réserve géographique. Qui aujourd'hui fait que les gens qui sont en Turquie, qui viennent de Syrie, d'Irak, préfèrent souvent passer en Europe pour avoir un statut de réfugié, ce qui explique aussi la volonté de sortir du territoire turc, même s'ils sont accueillis souvent mieux qu'à Sangatte en Turquie. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, je voulais insister sur l'importance de cette région, puisque c'est une région d'attraction de la main-d'œuvre très forte pour l'Asie et l'Afrique, mais avec très peu de droits. On peut entrer, mais une fois qu'on a travaillé, il y a très peu de droits sociaux, il y a quasiment pas de droits de regroupement familial, donc c'est une migration de courte durée de travail pour l'essentiel, même si un jour ou l'autre ces régimes devront changer pour s'adapter à la situation migratoire à laquelle ils sont confrontés. Beaucoup de ressources, très peu de population. Donc là, 6 millions de Palestiniens, je voulais quand même le rappeler aussi, avec la frontière cisjordanienne. Là, d'autres murs qui se sont construits entre l'Inde et le Bangladesh, 4000 kilomètres de murs pour se préserver de l'arrivée éventuelle de Bangladeshis vers l'Inde pour le travail, mais aussi à cause des risques environnementaux. Le Bangladesh est le premier pays du monde pour les risques environnementaux, puisque les glaciers de l'Himalaya fondent dans le Gange. Et le Gange est dans son delta, la capitale Dhaka du Bangladesh. Donc il y a des tas de gens qui sont frappés par les montées des eaux. Quand il y a des coulées de boue, il y a des milliers de morts, etc. Et donc ils essayeraient de se protéger en allant vers Calcutta. Mais l'Inde a construit ce mur pour se protéger. Ensuite, bon, je ne vais pas revenir sur tous les murs du monde, mais il y en a beaucoup. Cette région qui est d'une intense mobilité aussi, toute l'Asie du Sud-Est, avec des pays d'accueil, des pays de départ, des pays qui, selon la conjoncture, comme la Malaisie et la Thaïlande, sont tantôt des pays de départ, des pays d'accueil, avec des facilités de circulation entre certains d'entre eux, membres de l'ASEAN, donc le système de circulation des pays d'Afrique, des pays d'Asie du Sud-Est. Et puis, donc les Philippines, 1 sur 10 à l'étranger, comme je vous ai dit, c'est un facteur essentiel de développement humain des Philippines, même si ça ne développe pas nécessairement le pays lui-même. Et puis, toute la région, donc, en intense mobilité. Une région la plus peuplée du monde, je le rappelle. Donc, États-Unis, donc le fameux mur entre le Mexique et les États-Unis, et l'hispanisation progressive de ce territoire, d'ailleurs qui a été espagnol, qui a été mexicain, qui redevient hispanique culturellement dans tout le sud des États-Unis, et où la frontière est à la fois, surtout le lieu des trafics, plus qu'une véritable arme de dissuasion. Et l'Amérique latine, comme je vous ai dit, qui est un espace de migration régionale pour l'essentiel. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Bon, ça, c'est l'Australie, qui est un pays d'immigration, mais qui se barricade depuis les années 2000, surtout à l'arrivée des demandeurs d'asile. Et puis, pour terminer là-dessus, pour introduire l'introduction sur la question des frontières, faut-il ouvrir les frontières? Les villes les plus peuplées du monde, comme vous voyez, qui sont des villes asiatiques, qui sont aussi des villes souvent des mégapoles, parfois des villes mondes où se décident, comme dit Saskia Sassen, la sociologue américaine, beaucoup de prises de décision à l'échelle mondiale, Tokyo, d'autres aussi, Delhi, bien sûr Londres et quelques autres, mais aussi des villes qui sont souvent au bord de l'eau. Et donc, comme elles ont plus de 12 millions d'habitants, ben, les risques climatiques sont en première ligne. Souvent, c'est les plus pauvres qui habitent dans les endroits les plus, vulnérables. Et donc, très souvent, on a vu à Bangkok, on a vu à Dhaka, au Bangladesh, on a vu dans d'autres endroits ces villes envahies par les eaux. C'est un paysage qui risque de se produire et de se développer dans les années qui viennent si rien n'est fait en la matière. Et souvent, ce sont des villes avec des poches de pauvreté colossale. Et puis les transferts de fonds, donc aujourd'hui on est à 5 milliards de dollars envoyés par an par les migrants dans leur pays d'origine. C'est plus que 3 fois l'aide publique au développement. Donc les migrants sont un facteur, comme je vous disais, essentiel du développement humain dans les régions d'origine. Cette carte qui est intéressante parce qu'elle est d'actualité, qui sont les risques environnementaux. On a l'air de craindre qu'on soit envahi par les déplacés environnementaux. C'est pas tellement d'actualité en Europe. La plupart de ces, aujourd'hui, à peu près 40 millions de déplacés environnementaux. La moitié sont des migrants internes dans leur propre pays parce que ce sont des gens pauvres qui n'ont pas les moyens d'accumuler une cagnotte pour payer des passeurs, etc., qui sont souvent pris par l'urgence du phénomène. Donc sur la moitié, il y a à peu près 22 millions de migrants environnementaux qui sont migrants internationaux, les autres sont des migrants internes, mais les experts du climat prévoient entre 150 et 200 millions le nombre de déplacés environnementaux à l'échelle de la planète à la fin de ce siècle. Donc c'est un vrai sujet, c'est surtout une migration sud-sud, comme vous le voyez. La plupart des facteurs de migration liés à des catastrophes naturelles ou à des changements climatiques sont des phénomènes qui concernent surtout le sud, dans les pays qui sont les moins armés pour y faire face. Alors c'est sur ce constat, si j'ose dire, que j'introduis le débat d'aujourd'hui sur l'ouverture des frontières. La question de l'ouverture des frontières est une question qui se pose depuis de nombreuses années, et notamment à partir de la fin des années 90, constatant les morts aux frontières, constatant les aspects paradoxaux de cette fermeture qui conduit à des millions de sans-papiers dans le monde. Par définition, on ne connaît pas leur nom, mais on dit, puisqu'il y a eu une opération de régularisation aux États-Unis, 11 millions de sans-papiers aux États-Unis, 5 millions et sans doute plus en Europe, et beaucoup, je vous disais, 100 millions en Chine, mais qui sont des déplacés internes, etc. Tout ça pose une interrogation sur un monde bizarre d'une certaine façon, un monde qui devient de plus en plus en mobilité, cosmopolite, mais en même temps où il y a des tas de gens qui sont un peu comme les esclaves de l'Antiquité. Donc c'est ça la réalité, avec des quantités de hiérarchie de citoyenneté que les gens mettent pour lesquels il y a des gens qui meurent à cause de cela ou qui mettent des années de leur vie à essayer de traverser, de transgresser cette réalité. Donc là, c'est une première interrogation au nom de quoi finalement il y a une telle inégalité du droit de circuler à l'échelle mondiale. Et la première réponse qu'on pourrait donner, c'est que la fermeture des frontières contient beaucoup d'effets pervers. Le premier effet pervers de la fermeture, c'est bien sûr la contradiction entre une approche souverainiste qui consiste et sécuritaire, qui est celle de l'Europe, entre autres, de fermer les frontières, et puis la réalité des échanges, de la mobilité. Tout circule sauf les hommes, l'information, les finances, le commerce, les connaissances, mais les hommes sont contraints et les femmes de se soumettre aux politiques des pays d'accueil. Ce sont les grands pays d'immigration du monde qui fixent les règles. Alors que le droit de sortie, le droit d'émigration est un droit universel, le droit d'entrée est un droit souverain des États. Donc là, il y a déjà une première contradiction. Deuxième élément, il y a beaucoup de textes internationaux qui soutiennent la possibilité d'être mobile, de migrer. La Déclaration universelle des Nations Unies de 1948 qui dit que tout homme a le droit de quitter un pays, y compris le sien. Il y a également la Convention des Nations Unies de 1990 qui garantit à l'échelle mondiale les droits des migrants et de leurs familles, qui n'a été signée que par 48 pays, tous du Sud. Aucun pays du Nord n'a signé cette convention parce qu'elle reconnaît des droits aux sans-papiers. Il y a également le droit d'asile qui est une partie seulement de la migration, une petite partie, 60 millions de personnes en situation d'asile, si j'ose dire, des demandeurs plus réfugiés statutaires, et qui ne couvre que à peine le quart de l'ensemble des migrants internationaux. On n'a aucun statut universel pour l'instant pour les migrants internationaux, et d'autres textes qui garantissent la limitation des cas d'apatridie, la Déclaration des droits de l'enfant et la Convention de 1989 qui oblige la prise en charge des mineurs non accompagnés. Donc on a quelques bribes de conventions de l'Organisation internationale du travail qui protège les droits des migrants travailleurs, mais on a une mosaïque de petits éléments sans plus, si j'ose dire. Donc aujourd'hui, la situation, c'est un peu le Far West. C'est-à-dire c'est les plus riches, les plus puissants qui déterminent du droit de migrer à l'échelle mondiale. Et ce système donc crée toute une série de dysfonctionnements, dont les morts, dont les sans-papiers, dont la violation de toute une série de droits fondamentaux, et puis la multiplication des murs. J'ai un collègue qui s'appelle Michel Agier, qui est un anthropologue, qui a étudié les formes d'encampement des étrangers, les murs et les camps. Et il y a des quantités de murs et de camps dans le monde. Je vous en ai montré quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus. Il y a une sorte de folie de construire des murs aujourd'hui dans un monde de plus en plus cosmopolite. Donc il y a une certaine contradiction, même une contradiction avec l'économie libérale, qui est celle de l'essentiel du monde aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut être dans un monde d'économie libérale et avoir une approche souverainiste, sécuritaire du contrôle des frontières? Il y a un économiste américain, enfin un politologue américain, qui a travaillé là-dessus, qui est James Holyfield, qui a montré ce qu'il appelle le paradoxe libéral à propos de cette contradiction. Et donc, la fermeture des frontières comporte des quantités d'effets pervers, parce que si on ferme les frontières, eh bien, on accroît les inégalités entre les pays d'accueil et les pays de départ. Il n'y aura plus de pays d'accueil, plus de pays de départ, puisqu'il n'y aura plus que des pays, de départ d'où on ne part plus, ce qui est l'aspiration de certains dans le débat politique actuel. Mais ça crée encore plus de risques au Sud, parce que, comme on l'a vu, beaucoup de pays du Sud sont dépendants des transferts de fonds, qui sont des bons placements, si j'ose dire, en termes de développement humain, parce que c'est pas de l'argent qui va dans des régimes douteux, c'est de l'argent qui va localement dans les associations de développement, dans les familles qui ainsi peuvent mieux scolariser les enfants, peuvent accéder un tout petit peu à la société de consommation, qui peuvent aussi s'équiper en eau, en électricité, etc. Beaucoup d'argent des migrants, qui est une vue sûrement locale, à court terme, mais elle a des effets locaux très importants en termes de développement humain. Donc si on met fin aux migrations, d'une part on a une situation d'accroissement, parce que les migrants contribuent à réduire les inégalités du monde par leur mobilité, d'accroissement de la fracture entre les riches et les pauvres. D'autre part, quid de la situation de la dépendance des marchés du travail à l'égard des migrations. Et là, on n'a pas de flexibilité aujourd'hui, même en situation de crise, entre les métiers qui sont occupés par les primo-migrants et les métiers qui sont sollicités par les demandeurs d'emploi. Les demandeurs d'emploi ne gardent pas, pour l'essentiel, des personnes âgées. Ça se développe peut-être ici ou là, mais c'est pas massif. Ils font pas, c'est pas eux qui coulent le goudron sur les trottoirs. C'est pas eux qui nettoient tous les soirs le métro, parce que c'est des métiers mal payés, pénibles, irréguliers dans l'année, des horaires irréguliers, parfois avec une certaine mobilité géographique sur le territoire, exposé aux intempéries, etc. Les 3D, dirty, difficult, dangerous. Et donc, ce qu'on constate, contrairement à une idée qui avait été développée dans les années 70-80, quand en Europe on a fermé les frontières à l'immigration de travail salarié, c'est qu'il n'y a pas de substitution. Les nationaux, où il faudrait vraiment qu'ils soient très en crise, on l'a vu un tout petit peu en Espagne où ils ont commencé à ramasser les olives, mais pour le reste, on n'a pas de vraie substitution des nationaux aux étrangers, même en contexte de chômage. Donc il y a une dépendance structurelle à l'égard de l'immigration, pas seulement en Europe, mais dans des quantités de régions dans le monde. Ça, c'est un premier constat. Deuxièmement, le seul facteur de croissance de la population dans des pays à la situation démographique vieillissante ou stationnaire, comme l'Europe, c'est l'immigration. Sans l'immigration, l'Europe entre dans un déclin démographique. Le seul facteur de croissance, c'est l'immigration. Aux États-Unis, le seul facteur de croissance de la population, c'est l'immigration. Donc, il y a une dépendance démographique à l'égard de l'immigration. D'autre part, l'immigration, c'est aussi un facteur de créativité. D'ailleurs, les pays, la plupart des grands pays d'immigration, les pays européens, les États-Unis, le Canada, etc., l'Australie, ont des politiques sélectives. Parce qu'ils comprennent que non seulement l'immigration, ça permet de pourvoir des emplois qualifiés peu pourvus, mais aussi des métiers très qualifiés. Alors ça peut être le joueur de foot international, mais c'est aussi des gens qui sont les métiers de la création, les métiers de l'invention, les métiers scientifiques, etc. Et en général, pour eux, les frontières sont ouvertes. Et donc, si on est très compétent dans les pays pauvres ou si on est riche, on peut circuler. Les riches des pays pauvres, les exceptions des pays pauvres peuvent circuler assez librement parce qu'ils entrent dans les programmes sélectifs d'immigration. Ou alors, aujourd'hui, quand on a de l'argent, il y a beaucoup de pays, y compris européens, le Royaume-Uni, les Suisses, etc., où on peut, avec un investissement, acquérir un titre de séjour. Alors, ça peut paraître, étrange comme politique, mais c'est la réalité. Donc, il y a beaucoup de pays où, avec un capital, on dit, voilà, je vais acheter un appartement de telle taille, je vais créer une entreprise, j'investis ce capital, même dans une banque. Voilà, vous entrez, vous avez un titre de séjour. Donc, aujourd'hui, c'est un système qui s'est beaucoup développé, on peut payer d'une certaine façon son statut régulier si on a de l'argent dans un certain nombre de pays d'accueil. Donc ils ont compris le bénéfice qu'ils pouvaient tirer de certains types de migration, sauf qu'il y a aussi des métiers peu qualifiés, moyennement qualifiés dont on a besoin. Et dans l'ensemble, les métiers peu qualifiés dont on a besoin, ils sont tenus par les sans-papiers parce que il y a un intérêt économique à payer très peu ces gens jusqu'à un certain point. Donc c'est un système qui est assez déséquilibré. Autre élément l'interrogation sur l'ouverture des frontières, ce que je vous disais, plus les frontières sont fermées, plus les gens s'installent. Et surtout s'ils sont arrivés difficilement, comme sans papier, qu'ils ont payé des passeurs, comme à Calais, ben ils attendent soit de pouvoir passer ailleurs, là où ils le souhaitent, soit de faire régulariser leur situation. Et donc on a une sédentarisation aléatoire de gens qui attendent de pouvoir à nouveau circuler. Quand les frontières sont ouvertes, comme on l'a vu avec les gens de l'Est, on a de la circulation migratoire, ce qui est l'objectif. Il y a un philosophe allemand qui s'appelle Zygmunt Bauman qui dit « On est dans un monde fluide. La Terre est une sphère. Les hommes et les femmes n'ont pas d'autre choix que de circuler. » Donc il faut permettre ce que disait déjà Kant sur la proposition de citoyenneté universelle. Il était déjà sur ce constat qu'il fallait que les pays s'ouvrent à la mobilité. À l'époque, il disait le sujet, c'était plutôt que les gens étaient enfermés chez eux, ils n'avaient pas le droit d'aller ailleurs. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ils ont le droit de sortir, mais ils n'ont pas le droit d'entrer ailleurs. Donc il constatait déjà ça. On est dans un monde où finalement le citoyen du monde, c'est une réalité qui peut être vécue et pratiquée autrement qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et seule une toute petite élite peut se permettre d'être citoyen du monde aujourd'hui, compte tenu des difficultés du passage des frontières. Troisième constat, fermer les frontières, c'est encourager les trafics. Il y a toute une économie mafieuse épouvantable que je constate en lisant les thèses de mes étudiants et les mémoires, puisque c'est aussi mon métier. On peut pas imaginer ce qui se passe au Mexique aujourd'hui pour la traversée de la frontière américaine. Les gens se prostituent. Il y a les cartels de la drogue qui viennent également s'ajouter aux passeurs pour réclamer de l'argent à ceux qui sont en voyage à travers le Mexique et qui viennent d'Amérique centrale pour les racketter. Si l'argent n'est pas arrivé de la part du correspondant compatriotes aux États-Unis d'ici 48 heures, les gens sont abattus ou carrément égorgés. Donc c'est invraisemblable ce qui se passe dans ces situations, et le passage de la frontière est un jeu d'enfant par rapport à la difficulté de la traversée, parce qu'ensuite il y a beaucoup de trafic autour de la frontière. Je vous disais que les paysans turcs, grecs sont des passeurs, mais là c'est multiplié par 10, par 100, donc du côté du Rio Grande, la frontière du Texas, on a énormément de trafic en la matière. Donc on est dans l'hypocrisie totale sur le sujet. Et d'autre part, pour ajouter à cette situation, j'aurais tendance à dire que on va à l'encontre de toute une tendance mondiale qui est la gouvernance des migrations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Kofi Annan, quand il était secrétaire des Nations Unies, a encouragé ce qu'il appelle le multilatéralisme. On met autour de la table des gens qui ont des intérêts divers autour de la migration. Ça peut être les employeurs, les syndicats, les églises, les pays d'accueil, les pays de départ, etc. Et l'idée, ce serait de d'édicter des normes qui puissent s'imposer aux États pour éviter des traitements inhumains, dégradants et un minimum de socle de droits pour les migrants. Donc on s'appuie sur la Convention de 90, si peu signée, qui n'a eu que 48 signatures, pour essayer de la développer à l'échelle mondiale. Donc l'idée, c'est qu'on progresse sur la signature de la Convention, mais aussi sur les droits des migrants à l'échelle mondiale, compte tenu du fait qu'il y a des quantités d'inégalités selon les régions dans le traitement des migrants. Et l'idée, c'est de faire de la mobilité un bien public mondial. Un bien public mondial, c'est quelque chose qui ne nuit à personne. Donc essayer de faire en sorte que la migration soit bénéfique pour le migrant, pour le pays de départ, pour le pays d'accueil. On en est très loin. Et de faire en sorte également que le droit de migrer soit un droit de l'homme pour le 21e siècle. Donc on en est également très loin, mais c'est ça l'idée. Et quelques associations avec l'Organisation pour la citoyenneté universelle et le fameux passeport qui va avec ont essayé de promouvoir cette idée du droit de migrer comme forme d'expression de la citoyenneté dans le monde. Alors, outre Zygmunt Kant, bien sûr, Zygmunt Bauman, il y a d'autres philosophes plus proches de nous, comme par exemple Étienne Balibar, qui dit l'objectif, ce serait d'être citoyen dans le monde, une co-citoyenneté, être citoyen chez soi, mais aussi avoir des facilités de droit de citoyenneté à l'échelle mondiale, la conquête de nouveaux droits de citoyenneté. Je vous ai cité les sans-papiers, il y a aussi les apatrides, 14 millions d'apatrides à l'échelle mondiale. Il y a les fameux Chinois qui sont sans situation chez eux, qui sont sans-papiers dans leur propre pays. Il y a les déboutés du droit d'asile. On est dans un monde étonnant quand même, où on a complètement hiérarchisé les catégories qui pourrit la vie des gens et qui est un obstacle considérable au développement. Le dernier point sur lequel j'insisterai pour la thématique de l'ouverture des frontières, c'est ce que dit un de mes collègues, Bertrand Badi, qui est un internationaliste, un de mes collègues prof à Sciences Po. Il dit, ne serait-ce que par intérêt égoïste, on a intérêt à ouvrir plus les frontières, parce que si on laisse derrière des murs étanches des populations jeunes, scolarisées, avec 40 à 50% de taux de chômage, on crée à nos portes un risque d'insécurité totale. On le voit déjà avec la montée de l'islamisme, y compris radical. Si on va à nos portes créer des foyers de violence considérables. Donc la question de la fluidité des passages est aussi une façon de permettre d'éviter ces grandes lignes de fracture qui créent des frustrations totales. Donc voilà un petit peu le questionnement tel que je vous ai présenté sur l'ouverture des frontières. Je ne dis pas qu'il faut tout de suite ouvrir toutes les frontières dans le contexte actuel, mais je dis qu'il faut progressivement qu'on s'achemine vers ce questionnement et la réalisation de ce questionnement. Il y a des bouts de réponses qui ont été donnés par la gouvernance mondiale qui dit il faut des normes qui s'imposent aux États pour qu'il n'y ait pas des situations iniques qui se créent et pour permettre plus de mobilité. Première réponse. Deuxième réponse, les fameux espaces de libre circulation régionale. Troisième réponse, trouver un statut à des gens qui n'en ont pas et notamment aux déplacés environnementaux qui ne peuvent pas être reconnus comme réfugiés pour l'instant, aux apatrides, aux sans-papiers, aux déboutés du droit d'asile, qui parfois ont une protection interne dans leur propre pays, mais pas toujours, et on en aura de plus en plus. Ça aussi, ce sont des réponses. Souvent, les migrants ont été meilleurs pour trouver des réponses. Soit ils font appel aux passeurs, soit quand ils ont des titres de séjour de longue durée, ou mieux encore, quand ils ont acquis la double nationalité, ont réussi à transgresser les frontières. Et c'est un phénomène qui se développe beaucoup aujourd'hui. Beaucoup de gens ont acquis la double nationalité pour des raisons essentiellement instrumentales. C'est-à-dire ça permet de bénéficier du passeport européen, par exemple, ou américain, ou autre, et ça permet de traverser les frontières. Et donc, les gens sont de plus en plus pragmatiques en la matière pour essayer de trouver toutes les possibilités de contournement. Je terminerai en disant que beaucoup de décisions mondiales qui n'ont rien à voir avec la migration, mais qui devraient être reliées à la migration, puisqu'on est dans un monde interdépendant, devraient être réfléchies mieux qu'elles ne le sont. Par exemple, je prends des exemples que j'ai tirés des lectures des thèses, hein, tout simplement, ou de rapports internationaux. La décision de fixer le prix du coton bas ou haut, c'est une décision qui paraît neutre, enfin plus ou moins. Bon, on va enrichir les producteurs de coton de pays où ils sont subventionnés, puis on va appauvrir le producteur dans un pays pauvre où il n'y a aucune subvention. Sauf que ça a un impact considérable sur la migration, parce que le producteur américain qui est subventionné, ou même ouzbek, où c'est une production nationale, par rapport au producteur africain qui n'a rien, bah, il se dit, qu'est-ce que je fais dans mon champ? Mon coton ne vaut plus rien, donc je pars à la ville, puis éventuellement je pars ensuite à l'étranger. Les gens n'attendent plus, comme dans le passé, le fatalisme d'une situation qui va rester immuable. Aujourd'hui, ils ont pris en main leur destin et considèrent que la mobilité est une solution à leur situation. Si l'horizon politique de leur pays est complètement bouché, on a des gens qui sont là depuis 40 ans, une très grande inégalité de distribution de la richesse, ils se disent bah, la seule solution c'est de partir. Donc ça c'est un premier élément. Autre exemple, la création de plantes de café, production de café au Vietnam, ça paraît très bien. Le FMI, la Banque mondiale ont encouragé ça. Sauf qu'on n'a pas vu qu'il aurait peut-être fallu voir quels étaient les autres producteurs de café qui n'arrivent pas à tenir la concurrence, qu'il aurait fallu soutenir la concurrence avec des gens qui sont très mal payés pour produire du café. Donc ça, c'est en train de ruiner l'Amérique centrale. Donc l'Amérique centrale, massivement, part vers les États-Unis parce que les 50 ans de production de café, aujourd'hui, ne sont plus rentables pour le producteur de café centra-américain. Et donc, ça crée une migration massive vers le Mexique et vers les États-Unis. Il y a des quantités d'exemples de cette nature. Je vous en donne deux, mais il y en a des quantités de cette nature parce que les choses ne sont pas reliées. On parle très peu des migrations à l'échelle internationale, hein, dans les grandes conférences, le G8, le G20, pour la première fois en Turquie, a parlé des déplacés environnementaux. C'est la première fois. Avant le G20, c'est un sujet beaucoup trop, ordinaire, la question des migrations. Donc, on est dans des silos. On réfléchit entre silos, mais on ne réfléchit pas de façon interconnectée. Or, on vit dans un monde interdépendant. Donc, il faut, si on réfléchit sur les frontières, réfléchir aussi à des conséquences lointaines qui ont un impact sur l'ouverture ou la fermeture des frontières. Et de toute façon, si les frontières continuent à être fermées, elles seront de plus en plus contournées avec de plus en plus d'effets pervers qui seront liés à cette fermeture. Voilà un petit peu quelques éléments du débat.
Bonjour. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la validité actuelle de la Déclaration universelle des droits de l'homme relativement à la question à l'article 13, 14 et 15, aux articles 13, 14 et 15.
Cette déclaration, donc, elle a été décidée en 1948, à une période de guerre froide. Donc, il y avait un affichage aussi. Quand on faisait du droit d'asile, la Convention de Genève, 1951, même période, ou quand on écrivait la Déclaration universelle, il fallait aussi donner une image positive de l'Occident qui accueille. Et dans la grande prudence des rédacteurs, on a dit qu'on avait le droit de quitter un pays, y compris le sien, donc le droit de sortie, mais on n'a pas défini le droit d'entrée, aussi pour des raisons juridiques, c'est-à-dire le droit de sortie est un droit universel de l'individu sur la scène mondiale, acteur sur la scène internationale, puisque le droit d'entrée dans le monde du droit international public, j'ai aussi une formation de droit, c'est le monde des États. Donc il faut respecter le droit des États d'interdire, de limiter, d'ouvrir les frontières. Donc ça, c'était dans cette grande frilosité qu'on a édicté cette convention. Ça permet beaucoup de choses, ça permet d'ouvrir ou de fermer. Mais ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait répondre à cette convention, c'est d'inverser la logique. Les spécialistes de liberté publique disent que pour toutes les libertés, sauf celle de migrer, on dit d'abord le principe c'est la liberté. C'est-à-dire on pourrait dire toute personne a le droit de migrer et bien sûr les États peuvent limiter, interdire, ouvrir, etc. Donc on respecterait le droit international mais on édicterait la liberté publique de migrer. Et on n'en est pas beaucoup d'associations comme la Ligue des droits de l'homme ont cette position officielle hein, en disant ce qu'il faut c'est inverser la logique. Ce qui donnerait beaucoup de plus de légitimité à la migration. Le problème de la migration aujourd'hui dans le débat public c'est qu'elle est illégitime. Alors pour toute une série de raisons hein, parce que les pays d'immigration ont du mal surtout en Europe à se vivre comme pays d'immigration etc. Mais l'illégitimité est aussi liée à ce phénomène. Si on disait le droit le principe fondamental, c'est le droit de migrer et le droit donc à la mobilité comme droit de l'homme. Mais les États, bien sûr, peuvent l'interdire, la limiter, etc. Mais on aurait une autre légitimité de la migration sur la scène mondiale. Donc je pense que ça permettrait d'aller dans le sens un peu plus loin de la déclaration de 1948 et de ne pas dire qu'elle est nécessairement uniquement cosmétique. Et je ne pense pas qu'elle soit cosmétique.
Bonjour madame. Je tiens d'abord à vous remercier pour cet exposé très très général sur la question de l'immigration parce que c'est la première fois que j'entends quelqu'un comme vous poser la question des flux migratoires, non pas comme un mouvement unilatéral qui vient envahir les pays riches, mais qui pose la question en termes, au fond, mondialisés. Et c'est important. C'est important parce que il me semble que on a tendance aujourd'hui dans nos pays européens, même si mes origines sont ailleurs qu'en Europe, à considérer que l'immigration porte atteinte à l'identité. À l'identité culturelle, ou en tout cas des frontières. Vous connaissez, semble-t-il, bien l'Afrique. Les frontières en Afrique ont été érigées d'une manière totalement absurde et que ça favorise aussi, d'une certaine manière aussi, cette espèce d'immigration interne dont vous parlez en Afrique. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que à la lumière de ce que vous dites là, est-ce qu'il n'est pas urgent que les études que vous faites, vous et les vôtres, vous faites, les politiques doivent se les approprier pour mieux avoir une prospective, non pas uniquement une réaction électoraliste immédiate par rapport à ce qui se passe, mais avoir une vue plus lointaine, parce que cette question-là se pose à la lumière de plusieurs générations à venir. Voilà.
Merci beaucoup. C'est une excellente question, très actuelle elle aussi. Alors, les politiques ne sont pas ignorants de ces réalités, parce qu'ils vont dans toutes sortes de débats où sans doute ça se discute, sauf qu'ils sont très dépendants de l'opinion publique. Et en fait, malgré la montagne de rapports, de livres, etc., qui sortent sur ces sujets, en fait, eux, ce qu'ils regardent, c'est les sondages. Ils regardent les sondages, ils regardent l'opinion publique, et donc ils vont répondre, y compris à Bruxelles, à l'opinion publique. C'est-à-dire qu'on est dans le sécuritaire. On a fait des quantités d'erreurs en définissant la politique migratoire actuelle, mais ce serait une deuxième conférence. Mais notamment, on a cru qu'en fermant les frontières en 1974 pour l'immigration de travail, ce serait la fin de la migration. Parce que il y avait la crise économique, que les migrants allaient retourner chez eux, deuxième erreur, qu'il y aurait une substitution des Européens ou non-Européens sur le marché du travail, troisième erreur, et que le développement serait une alternative à la migration, quatrième erreur. Donc on a fait des quantités d'erreurs qui ont fondé la politique européenne, qui est fondée sur des scénarios qui n'ont pas eu lieu. Donc ça, c'est quand même très important, des scénarios qui n'ont pas eu lieu, premier élément. Et deuxièmement, toutes ces données sont connues, sont publiées, etc. Il y a beaucoup de, en permanence, il y a les journalistes qui disent tout ce que j'ai dit, hein, c'est pas très original. Sauf que c'est pas ce qui intéresse les politiques. Eux, ce qui intéresse, c'est leur prolongation, et donc ils vont regarder les sondages. Donc on est dans le sécuritaire. Et dans la politique européenne, elle est essentiellement, aujourd'hui, sécuritaire. D'une part, elle est gérée par la police. Par la police, parce que depuis le traité d'Amsterdam, on est entré dans le jargon européen, dans la pilarisation des décisions, et donc la question d'immigration, qui était un sujet de main-d'œuvre, est devenue un sujet de sécurité, justice et affaires intérieures. Donc c'est les ministères de l'Intérieur qui gèrent l'immigration à l'échelon européen, indépendamment des considérations du marché du travail. Ça, c'est une première réponse. Et on est en plus dans une persuasion qui est fausse, que plus on dissuade, moins les gens viennent. C'est une idée fausse, mais totalement fausse, qu'il y a 30 ans d'erreur. Hein. Mais on continue là-dedans. Parce que, alors c'est ce qu'on fait à Calais. Pourquoi est-ce qu'il y a 4000 ou 6000 personnes, je ne sais plus très bien aujourd'hui, à Calais? Et on se dit, pourquoi est-ce qu'ils dorment sous la tente? On aurait toutes les possibilités, ce que m'ont dit les associations et d'autres à Calais, de les accueillir avec au moins un toit au-dessus de leur tête. Mais on se dit, si on les accueille mal, ils resteront pas ou ils viendront plus. Faux. Complètement faux. Les gens, ils ont payé très cher des passeurs. Ils sont jeunes. Ils se disent, ben, nous, on veut aller jusqu'au bout et on va, c'est pas dormir sous la tente qui va nous, on a vécu des choses tellement dures que dormir sous la tente, c'est pas ce qui va nous effrayer. On continue. Donc, en fait, l'idée qu'on, plus on accueille mal les gens, moins ils viennent, est une idée complètement fausse. On est dans la stratégie de dissuasion et de répression de l'immigration. C'est l'approche que l'Europe a des migrations. Parce qu'elle se considère, elle est un continent d'immigration aujourd'hui, je vous l'ai montré, mais elle ne s'accepte pas comme tel, parce que historiquement les Européens sont partis partout ailleurs c'était un continent peuplé, donc qui s'est pas historiquement constitué avec la migration de peuplement comme les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et quelques autres. Donc le fait, tout ce phénomène historique donne de l'illégitimité à l'immigration. On considère encore aujourd'hui dans beaucoup d'opinions que c'est une solution de court, au mieux que c'est une situation de court terme à des problèmes de main d'œuvre. Or aujourd'hui, comme je vous le disais, les migrations légales de marché du travail, c'est seulement 15% des entrées en Europe, donc c'est peu. Le reste, c'est du regroupement familial, c'est des demandeurs d'asile, c'est des étudiants, c'est des entrepreneurs, etc., des commerçants. La main d'œuvre, c'est très peu aujourd'hui, qualifiée ou non qualifiée en Europe, mais les gens n'ont pas ça en tête, et donc ils croient que les nouveaux arrivants vont leur poser des problèmes de concurrence sur le marché du travail et que ça va diluer leurs identités, je sais pas lesquelles d'ailleurs, qui s'alimentent aussi en permanence avec toute une série de nouveautés dont la diversité fait partie. Mais on est dans un déni de réalité Et donc les gens font l'autruche et les politiques ont tendance à suivre ces gens-là parce que c'est l'opinion publique, c'est le vote, c'est...
Quand vous dites que les gens qui viennent par le regroupement familial ou...
60% des entrées en Europe et l'essentiel des entrées aux États-Unis.
Ou les demandeurs d'asile n'ont rien à voir avec le travail après.
N'ont rien à voir, mais je dis que aujourd'hui les facteurs d'entrée légaux, c'est ça. Après, ils vont entrer sur le marché du travail.
Voilà, et je crois que c'est ça que les gens voient. Vous dites qu'ils n'entrent pas pour venir travailler.
Légalement, non.
Légalement, non, mais à la fin, oui.
Oui.
Et c'est pour ça que les gens ont peur, peut-être.
Bon, je pense pas que ce soit l'aspect essentiel aujourd'hui, parce que déjà pour quand on est demandeur d'asile, on n'a pas tout de suite accès, surtout en France, au marché du travail. Donc il faut voir ça par rapport à d'autres pays européens. D'autre part, pour entrer dans les catégories du regroupement familial, il faut déjà correspondre à toute une série de critères de plus en plus restreints. Et ensuite, déjà, beaucoup de gens parmi les demandeurs d'asile qui ont réussi à entrer pourront pas se maintenir légalement comme réfugiés, puisque le taux d'acceptation, malgré l'accueil des Syriens, actuellement est quand même faible, notamment en France, etc. Donc je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est l'idée que on n'est plus chez soi, etc. Le marché du travail, c'est un aspect, mais les gens savent très bien qu'ils sont pas nécessairement en concurrence sur le marché du travail avec les gens qui font les métiers qu'occupent les primo arrivants. Les primo arrivants, ils font des métiers que les gens ne veulent pas occuper, malgré le chômage. C'est ça la réalité. Y compris les médecins de campagne, pas seulement pour les métiers peu qualifiés, mais on manque de plombiers en France. Hein. Et c'est vrai qu'il y a des plombiers polonais, mais les gens sont pas nécessairement mécontents des plombiers polonais. Il y a des médecins roumains et bulgares, parce qu'on n'a plus de médecins de campagne en France, les gens sont pas nécessairement mécontents, ils veulent pas nécessairement les médecins veulent pas nécessairement être médecins de campagne. Donc ils disent pas, les Roumains et les Bulgares nous prennent notre travail. Donc je pense pas que ce soit l'aspect essentiel de la crainte, c'est la crainte d'un monde qui change et qu'ils ne veulent pas voir changer. C'est plutôt ça. Le monde est devenu cosmopolite, le monde est en mobilité et les gens veulent, comme beaucoup de gens, que les choses restent telles qu'elles sont. Or, nécessairement, elles changent. Et cette réalité-là est très mal acceptée en Europe, qui est la plus grande destination migratoire au monde, alors que les gens ne se considèrent pas comme habitant un continent d'immigration. Ça, c'est une contradiction. Aux États-Unis, c'est pas le cas. Je dis pas que tous les arrivants sont bien accueillis, il y a plein de sans-papiers, etc. Mais les gens se considèrent comme un pays d'immigration. Il y a une histoire, il y a une célébration de l'immigration, et donc ils acceptent qu'il y a du cosmopolitisme, que les migrants sont constitutifs de la population américaine, on entretient une mémoire, il y a un musée qui célèbre tous ces arrivants, etc., à New York par bateau, donc il y a une légitimité. En Europe, il y a une illégitimité du phénomène migratoire, et ça explique les votes aussi. Parce que l'Europe a du mal à se considérer la seule autre région du monde où on s'accepte pas comme pays d'immigration ou comme continent d'immigration, alors qu'on l'est, c'est le Golfe. C'est l'autre exemple du monde, le seul. Hein, parce qu'il y a une immigration massive, parce que c'est des pays désertiques et peu peuplés avec énormément de ressources. Et donc, ils sont complètement dépendants de l'immigration, mais ils acceptent pas ça. Donc, ils veulent pas que les migrants viennent faire venir leur famille. Ils ne veulent pas qu'ils prennent, bien sûr, la nationalité du pays d'accueil. Ils veulent pas qu'ils aient les mêmes droits sociaux que les nationaux, etc. C'est le seul exemple dans le monde. Donc, c'est une curiosité, si j'ose dire.
Oui. Sur le même sujet... Les conséquences de l'immigration sur l'emploi et les revenus. Les études qui ont été faites aux États-Unis en particulier montrent que globalement les effets sont très faibles, soit légèrement positifs, soit légèrement négatifs, suivant le type d'immigration et l'état de l'économie. Par contre, sur le plan des catégories sociales, c'est différent. Les études qui ont été faites, en particulier depuis 20 ans aux États-Unis, montrent que effet du chômage, en particulier l'immigration mexicaine, c'est un élargissement de l'éventail des revenus, et les gens qui ont des revenus importants gagnent avec l'immigration, ceux qui ont des revenus faibles perdent. à peu près la même chose d'étude qui a été faite en Allemagne, la grande étude qui a été faite dans les années 90, qui a été faite vers 2005. Et en particulier, il y a une conséquence, une première conséquence avec l'afflux des pays de l'Est, de gens bien formés. Il y avait en fin de compte des besoins en Allemagne, ça n'a pas provoqué de chômage, ça a provoqué une petite baisse des salaires dans ces domaines-là. Par contre, il continuait à y avoir, bien sûr, l'immigration turque. Et ce qui a été constaté, c'est que pour deux immigrants nouveaux qui trouvaient du travail, un immigrant ancien perdait le sien. Et en France, population active, employés et ouvriers, la moitié de la population, population immigrée, c'est à peu près les deux tiers. Et si les ouvriers et les employés craignent l'immigration en France, c'est parce qu'il y a des effets. Les effets sont relativement faibles, mais comme personne ne veut en parler, si par hasard ils en parlent, on leur dit qu'ils sont racistes. Et il y a ce mépris pour ce qu'ils vivent qui fait que ils ne participent plus à la vie civique où ils votent Front National. Et il me semble qu'il serait très efficace pour que l'immigration puisse se faire mieux de regarder tous les problèmes, regarder celui-là en particulier, et à partir du moment où on l'apprécie à sa juste mesure, les choses seraient peut-être meilleures.
D'accord avec vous, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des hommes politiques un peu d'envergure qui répondent à tous les clichés qui fonctionnent alimentés par l'extrême droite sur ce sujet, et notamment sur l'aspect économique. Il y a une étude qui a été faite par des chercheurs de Lille, Chodniki, de l'Université de Lille, et un autre de l'école d'économie de Paris, Lionel Rago, dans une petite collection qui s'appelle « On entend dire que l'immigration coûte cher à la France, qu'en pensent les économistes ?» Et les économistes, pas seulement depuis cette étude qui date d'il y a 4-5 ans, mais aussi depuis 1976, la première étude qui a été faite, c'était Anissa Le Porce, une étude de la direction de la prévision du ministère des Finances, qui montrait que l'immigration en France rapportait plus qu'elle ne coûte, pour des raisons démographiques, c'est-à-dire que les gens arrivent jeunes, donc on n'a pas le coût de l'enfance et de la formation. Ensuite, souvent, ils repartent ou ils vivent sur deux espaces étant à la retraite, donc il y a moins de frais du très grand âge, et d'autre part, cette immigration, si elle est en situation régulière et qu'elle travaille, eh bien, elle le rapporte en termes d'impôts, en termes de consommation, en termes de développement économique, et que, de toute façon, dans tous les pays du monde étudiés par cette étude, pas seulement en France, l'immigration est dans un effet de balance des paiements positif et non pas négatif, comme beaucoup de gens le pensent. Donc ça, je crois que c'est important à dire, parce que beaucoup de gens sont convaincus du contraire. Il faudrait que des hommes politiques en France répondent à ça. Ils le font pas, parce qu'ils fuient le sujet qui gêne, etc. Et je crois que c'est tout à fait dommage. On a abordé de plein front le climat, il faudrait aborder l'immigration. Oui, parce que d'une part, l'Allemagne est très consciente de son déclin démographique, et l'Allemagne a une insertion qui dépend surtout de son marché du travail. Donc l'Allemagne a été le premier pays en Europe dès 2000 à créer ce qu'elle appelait une carte verte, qui n'a pas donné d'ailleurs beaucoup de résultats pour accueillir beaucoup de qualifiés du monde entier, parce que ces gens-là, ils vont plutôt en Angleterre ou aux États-Unis qu'en Allemagne, pour des raisons linguistiques, culturelles diverses. Mais ensuite, ils ont créé en 2005, donc ils ont été les premiers à entrouvrir de façon significative leurs frontières, à une époque où tous les pays européens étaient sur la fermeture, le sécuritaire, etc. C'est l'année de Frontex, 2005, la mise en œuvre de Frontex. Eux, ils ont ouvert leurs frontières en créant des permis à points pour les qualifiés, les moins qualifiés, les moyennement qualifiés sur le marché du travail, en ouvrant leur immigration, parce qu'ils ont conscience qu'ils en sont dépendants démographiquement et économiquement. Et ils ont des gens du monde entier. Mais les États-Unis le font aussi. Les États-Unis, par exemple, qui ont paradoxalement le plus grand pays d'immigration au monde, un régime d'immigration qui est fondé sur le regroupement familial. Ça peut paraître étonnant, mais c'est un reliquat de leur approche immigration de peuplement. Et donc chaque année, aux États-Unis comme au Canada, comme en Australie, le Parlement vote le nombre légal de nouveaux entrants admis sur le territoire, ce qui montre la légitimité du phénomène. En France ou en Europe, on imaginerait difficilement ça dans le contexte politique qui est le nôtre actuellement. Donc il y a à peu près 800 000 aux États-Unis, 220 000 au Canada, 80 000 en Australie, pour vous donner une idée. L'essentiel de ces nouveaux entrants, c'est des gens qui sont plutôt des regroupements de familles. Donc immigration de peuplement. Alors comment est-ce qu'on peut être compétitif sur la scène mondiale en faisant entrer des familles? Alors ils contournent le système, ils ont les permis H1B, qui sont les permis pour les très qualifiés, etc. Donc ils leur permettent de outre ces gens qui ont été votés en nombre, on va faire entrer 800 000 personnes, ils ont des permis souples pour toute une série de qualifications. D'autre part, pour diversifier, ce qui est une approche immigrationniste, si j'ose dire, aux États-Unis, on tire au sort dans les consulats du monde entier des green cards. Donc, pour essayer d'équilibrer surtout les régions du monde par rapport aux latino-américains très nombreux. Donc, on tire en Afrique, en Asie, en Europe, des green cards. Dans le métro parisien, de temps en temps, il y a « voulez-vous gagner une green card ?» Donc, adressez-vous tel numéro au consulat des États-Unis. Et en permanence, ils alimentent leurs nouveaux venus avec l'idée qu'ils sont le pays d'accueil du monde entier, avec ces tirages au sort, ce qui est un symbole, même modeste, mais un symbole de croyance que l'immigration est un facteur positif pour le pays. De même, au Canada, ils ont des permis à points pour les très qualifiés, mais en même temps, ça ne résout pas tout le problème, parce qu'on a aussi besoin de moyennement qualifiés et de moins qualifiés qui sont fournis surtout dans ces pays par les saisonniers, surtout au Canada d'ailleurs.
Moi, je voudrais avoir votre opinion sur un ouvrage que je considère comme important parce qu'il aborde la question de l'immigration sous l'angle purement historique. C'est l'ouvrage de Gérard Noiriel, Migrants et clandestins 19e et 20e siècle en France, enfin, qu'on peut élargir. Et je résume les 300 pages en 30 secondes en disant, enfin, ce qui m'a frappé, entre autres, qu'à l'époque où il n'y avait pas de loi sur l'asile, il n'y avait pas de problème d'asile. Et on a accueilli des proportions considérables de réfugiés et de migrants. Là, c'est schématique, hein, mais qu'est-ce que vous en pensez de cet ouvrage? Vous connaissez bien.
Gérard Noiriel, c'est un excellent historien, donc là-dessus, j'ai rien à dire de particulier. Je le connais bien et c'est parmi les meilleurs historiens des migrations. Ce que je dirais simplement, c'est qu'on a eu quand même beaucoup plus de mobilité du monde, de gens qui ont quitté les grands empires à peu près. Et c'est la raison pour laquelle on a créé une législation sur l'asile après la Première Guerre mondiale, le passeport Nansen, 1922. C'est parce que les grands empires se sont défaits, si j'ose dire, qu'on a eu tellement d'arrivées de gens qui étaient apatrides, qui avaient besoin d'un statut. Donc, autrefois, ça se faisait de façon relativement souple, parce que, comme je disais, le droit d'entrée était très facile pour eux. Avant la Première Guerre mondiale, il y a Stefan Zweig qui a écrit un livre qui s'appelle Le Monde d'hier. Il a dit le monde était sans frontières et pour les gens qui pouvaient circuler, c'était le monde était à nous en fait. Il n'y avait pas de visa, pas de passeport, pas de tout ça. C'était très facile de circuler. Donc je nuancerai un petit peu en disant d'une part les résultats de la Première Guerre mondiale avec l'effondrement des grands empires ont rendu nécessaire un statut pour notamment les demandeurs d'asile et les réfugiés. D'autre part, la question de, disons, la réglementation de ces nouvelles entrées est devenue importante, surtout dans les périodes de crise. On a commencé à réglementer l'immigration dans les États-Unis des années 30, au moment de la crise de 29. On a réduit les entrées. En Europe, il y a eu aussi un coup de frein qui a été apporté dans cette période aux afflux de migrants, etc. Effectivement, dans un monde qui avait encore des espaces vides à peupler, la logique était un peu différente de celle qu'on a aujourd'hui. J'ai répondu à vos questions.